Nous devions consacrer l'émission aujourd'hui aux glaces polaires pour parler du climat et puis état d'alerte aux Philippines alors qu'hier se réveillait le volcan Taal qui a commencé aujourd'hui à cracher de la lave et à propulser une gigantesque colonne de cendres et de fumée. Le volcan se trouve à 65 km de Manille, la capitale du pays, et des centaines de vols internationaux ont été annulés par crainte d'une éruption explosive. Je reçois dans un instant le volcanologue Patrick Allard qui connaît bien les Philippines et qui va tout nous dire sur l'identité de ce volcan et les risques qu'il fait courir aux populations. Vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans un instant.
Oui, avec Emmanuel Macron, invité vendredi soir des 150 citoyens de la Convention pour le climat. Je vais tout regarder.
Dans la deuxième demi-heure, le nouveau feuilleton de la semaine que vous signez, Juliette Proutot, bonjour.
Bonjour.
Pour nous emmener dans des millions de tonnes de terre.
Exactement, et pas n'importe quelle terre, celles qui sont issues de l'un des plus grands chantiers en cours en Europe, les terres du futur Grand Paris Express.
Premier épisode après 14h. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Théo, un auditeur de Brest qui a créé la première filière française de recyclage des filets de pêche. Et puis enfin, notre invité découverte est le journaliste Jérôme Fritel qui est l'auteur d'un documentaire édifiant consacré à la privatisation de l'eau et qui est à voir en ce moment sur le site d'Arte. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisé par Valérie Ayestaraï avec à la technique Arthur Le Breton et Guillaume Roux.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Sa dernière éruption remonte à 1977. Le volcan Taal, près de la capitale des Philippines, crachait ce lundi de la lave et une gigantesque colonne de cendres illuminée par des éclairs. Des images impressionnantes. Situé au milieu d'un lac de cratères très apprécié des touristes, le volcan s'est réveillé dimanche, accompagné d'une série de séismes. Plus d'une cinquantaine de secousses ont été ressenties depuis le réveil du volcan.
Les infos sur Euronews ce matin. Bonjour Patrick Allard.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous, volcanologue, directeur de recherche CNRS émérite à l'IPGP. Et vous êtes depuis l'année dernière le président de l'Association internationale de volcanologie. Que se passe-t-il en ce moment aux Philippines avec ce volcan Taal dont on nous dit qu'il pourrait provoquer une éruption explosive dans les prochaines heures, les prochains jours?
Alors on a affaire à un cas typique du réveil d'un volcan qui était actif, qu'on appelle actif, mais qui dort. La plupart du temps, les volcans dorment. Et puis de temps en temps, ils font éruption. Et quand ils font éruption, c'est un gros volcan. Ils sont capables de faire peut-être des petites éruptions, brèves, mais aussi de grandes éruptions. Alors celle-ci, on ne sait pas encore comment la classer, mais elle survient après quelques mois d'accroissement de l'activité sismique, de déformation vue par les capteurs au sol et par les capteurs satellitaires, par les réseaux GPS, augmentation des émissions de CO2 dans le lac de cratère. C'est un volcan très particulier qui...
Il faut présenter sa physionomie et puis sa géographie aussi. Hein.
Oui, bon, donc il est à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Manille, la capitale des Philippines, 20 millions d'habitants. Ouais. Donc des banlieues très proches. Et c'est un des 25-26 volcans actifs surveillés intensément des Philippines. Hein. Une zone très active et très très sismique et très volcanique. Le volcan Taal a eu en gros 33 éruptions depuis 1700 à peu près.
Dont certaines très meurtrières.
Dont certaines très meurtrières. En 1911, il a fait 1350 victimes à peu près, 200 victimes en 1965. Et c'est un volcan qui est constitué... Alors c'est pas un volcan comme on a l'habitude de les voir, hein, haut et pointu. Il l'a été dans le passé, bien sûr, mais il s'est effondré, ce volcan haut et pointu, et il a formé un grand cratère d'effondrement qu'on appelle une caldeira. C'est un mot portugais, je veux dire chaudron. Et il fait, cette caldeira, ce grand cratère, fait 20 km par 15 km. Donc c'est un gigantesque trou béant, 160 mètres de profondeur à peu près, rempli d'un lac.
Donc c'est un lac, voilà, c'est ça. C'est de l'eau qui entoure ce volcan.
De l'eau de pluie. Et au centre de ce grand trou, s'est reconstitué plus récemment un volcan central, qu'on appelle le cône central, et qui forme une nouvelle île à l'intérieur de ce lac, qui lui-même a un cratère de 3 km de diamètre.
D'accord, donc c'est le jeu des poupées russes volcaniques quasiment.
Exactement. Ouais.
Qu'est-ce qui l'a réveillé exactement, ce volcan?
Alors, comme la plupart des volcans, il a un grand réservoir de magma qui en général se trouve dans la croûte terrestre, des profondeurs de l'ordre de 8-10 km, puis des choses plus profondes qui alimentent depuis le manteau terrestre. Et alors, il faut des conditions spéciales pour faire remonter du magma. Donc, on appelle ça une intrusion, c'est-à-dire une remontée, un filon de magma, des filons de magma qui peuvent être très petits, mais qui peuvent être très gros, selon les cas. Et depuis les signaux précurseurs enregistrés depuis les derniers mois, effectivement, tracent ou indiquent la remontée plus accélérée dans les dernières semaines de ce magma. Mmh.
C'est la rapidité d'ailleurs hein, de ces derniers jours qui a surpris un petit peu tout le monde.
Qui a un peu surpris tout le monde, pas les Philippins tout à fait, parce que vraiment ils voyaient monter le niveau d'activité du volcan, hein, qui était assez stable et calme depuis quelques dizaines d'années. Mais c'est toujours pareil, c'est très difficile. La volcanologie, on peut prévoir les éruptions, on a des signaux précurseurs, ouais. Attends, c'est pas comme pour les séismes, hein. En tout cas, c'est plus facile pour la volcanologie. Et c'est très difficile d'évaluer quand, sauf si votre volcan est hyper surveillé, c'est-à-dire une très forte densité de capteurs, d'avoir une idée du volume de magma qui monte. Donc, quelquefois, on peut être surpris. C'est des petits volumes, on les voit, ça fait pas un énorme bruit, et ça sort très vite.
Oui, alors, on ne sait pas encore si on peut le classer en éruption explosive, hein, c'est ça, c'est ce que vous nous disiez. Voilà. Mais la probabilité est assez forte quand même.
La probabilité est forte compte tenu de l'histoire du volcan. La première phase d'activité a été une phase d'activité qu'on appelle phréatique, phréato-magmatique, c'est-à-dire réaction de gaz magmatique et de magma tout proche avec des eaux, des nappes d'eau phréatiques et une partie du lac en partie. Maintenant, on s'attend éventuellement à une éruption très explosive.
Ouais. Au pire des cas, imaginons le pire des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'abord pour la population de Manning, 65 km donc au nord de ce volcan, et puis pour le reste de la Terre aussi?
Alors, dans le pire des cas, ça serait une éruption, ce qu'on appelle plinienne, hein, c'est-à-dire des éruptions capable, plinienne héritée de Pline.
L'ancien. Le jeune ou l'ancien?
Le jeune qui a tout écrit, mais l'ancien qui a observé. Ouais. Plinienne du Vésuve, donc, à l'époque. Son plinienne qui monte jusqu'à 15, 20, voire plus 30 km d'altitude. Mm-hmm. Donc capable d'injecter des particules de cendres et des gaz dans la stratosphère, hein, d'avoir un impact sur le climat si ça dure, si elles sont importantes. Mais surtout, du point de vue, bon, c'est pas forcément ce cas qui va se produire, mais on peut s'attendre à une éruption explosive qui envoie des cendres jusqu'à 15-20 km, et qui effectivement, selon les vents, arrosent Manille, et surtout font courir des risques directs d'effondrement de colonnes, engendrant éventuellement des tsunamis dans le lac de cratère qui fait 20 par 30 km de diamètre, hein, quand même, il faut voir, affectant les gens qui habitent sur le bord de la caldeira, de ce grand trou, et puis pour les populations, puis le trafic aérien, et puis la banlieue de Manille, et le trafic routier, etc. Ouais.
Alors le trafic aérien, c'est déjà le cas pour l'interruption, en tout cas, les cendres aussi, hein, elles commencent déjà à tomber sur Manille, et puis on a signalé déjà des colonnes de vapeur d'eau de 15 km de haut, donc ce sont des signes annonciateurs qui sont pas très bons quand même, non?
Ce sont des signes annonciateurs de puissance accumulée. Mm-hmm. Pour monter une colonne à 15 km de haut, il faut une belle énergie, et il faut une bonne quantité de magma. Alors cela dit, le réveil d'un volcan se caractérise quelquefois par des phases très explosives, parce qu'il faut rouvrir, il faut relâcher la pression. Le magma peut faire ensuite, quand il arrive à la surface, si les conduits sont ouverts, une éruption plus classique, pas forcément aussi explosive que la première phase. Ce sont des scénarios... pour l'instant, aujourd'hui, il faisait des fontaines de lave, par exemple. Oui. Alors, les fontaines de lave, c'est le magma qui gicle en jet quasiment continu jusqu'à 500 mètres de haut, ce qui était très puissant, déjà. Mais on ne peut pas se prononcer à l'heure qu'il est sur l'évolution du scénario. Oui.
En tous les cas, les Philippines, vous les connaissez bien, Patrick Allard, et les Philippines ont été très marquées par des volcans précédents, hein, comme le Pinatubo, par exemple, en 1991, plus de 800 morts. Il y a une prise de conscience là-bas très forte et une prévention importante ou pas?
Alors, comme dans tous ces pays, comme l'Indonésie, voisine, etc., les Philippines ont un service volcanologique qui s'appelle le FIVOX, avec des gens compétents, très motivés, mais qui manquent aussi de moyens, bien sûr, qui ont beaucoup de volcans à surveiller, 26 volcans à surveiller, c'est beaucoup. Dans des conditions climatiques ou de communication qui ne sont pas toujours faciles, il y a aussi des problèmes politiques au sud qui compliquent la tâche pour la surveillance des volcans du sud. Et puis, des volcans qui sont relativement actifs, des éruptions fréquentes. L'année dernière, en 2018, j'ai étudié l'éruption du volcan Mayon, qui est un autre volcan un peu plus au sud du Taal, et qui, pareil, a forcé l'évacuation de 35 000 personnes pendant plusieurs mois.
Vous revenez de Naples, hein, vous étiez là-bas encore hier. On parlera d'ailleurs de l'Europe aussi avec vous dans quelques minutes, parce qu'on est aussi dans une zone tout à fait particulière. particulière que vous allez nous décrire dans un instant. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Vous nous direz également si un volcan comme aux Philippines pourrait faire baisser les températures à l'échelle de la planète. Pourquoi pas, il y a eu des précédents aussi dans l'histoire de notre Terre. Patrick Allard, vous êtes notre invité. 01 45 24 7000 pour les questions des auditeurs.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, vous revenez aujourd'hui sur le passage d'Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat.
Oui, le président a dialogué, c'est comme ça qu'on dit, avec les 150 citoyens tirés au sort pour aider à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre françaises d'ici 2030. Ils doivent proposer des mesures au printemps, je vous en parlais la semaine dernière. Alors, le rendez-vous, c'était vendredi soir. Dans le grand hall qui résonne du palais d'Iéna à Paris. Ne me demandez pas combien ça coûtait en chauffage cette affaire. Hein. J'en ai aucune idée. 2h39 d'échange. Je crois qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer un message avec quelques éléments de langage à peine cachés.
Je vous garantis sur le sans filtre, transparence, en toute transparence, sans filtre. C'est de la transparence et plus du huis clos. Sans filtre, transparent, transparence, transparente. Parce que c'est comme ça que ce sera le plus sans filtre.
Voilà, j'ai compilé évidemment. Hein. C'est un montage.
C'est en très tout cas, malhonnête ce que vous faites.
Cette transparence, non, parce que justement ça reflète une réalité. Ce sans-filtre, il l'avait déjà promis le président en avril dernier, quand il avait annoncé la création de la Convention citoyenne pour le climat.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe.
Et il l'a donc redit vendredi soir, mais en ajoutant les petits astérix. Vous savez, comme quand on achète un truc en promo, faut bien lire ce qui est écrit en bas, en tout petit, ou ce que les pubs à la radio disent très vite à la fin. Voilà donc les conditions au sans filtre.
Plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans filtre. C'est-à-dire, si c'est juste une idée ou une intention, quelque part, vous la remettez à des gens qui devront la mettre en musique. Par contre, si, à la fin de vos travaux, vous donnez des textes de loi, des choses précises, je m'engage à ce qu'ils soient donné ou au Parlement ou au peuple français tel que vous les proposerez.
Alors c'est déjà plus exactement la même chose. Hein. Mmh. Les 150 citoyens doivent sortir des propositions déjà rédigées comme des lois et ce n'est pas tout.
Ce que je vous propose, c'est que une fois que vous les aurez faites, je vais moi les travailler, les regarder, et je viendrai devant vous dire comment on fait, ce que j'entends faire sur chacune d'entre elles et pourquoi.
Donc sans filtre, sauf celui du président.
Il y a un cas de figure qui peut être de moi de vous dire je ne suis pas d'accord.
Ah, alors attendez, il s'explique quand même.
Je ne vous mettrai jamais dans la situation de dire « vous avez proposé quelque chose et c'est tombé aux oubliettes ou ça a été déformé ». Je l'assumerai devant vous en vous disant pourquoi.
Voilà, donc proposition peut-être à la poubelle, mais au moins ils sauront pourquoi. Au sujet du référendum, c'est d'accord, à condition à nouveau que le texte soit bien rédigé, hein, comme une loi. Sinon, eh bien, il n'aura qu'une valeur consultative et c'est de toute façon encore le président qui décidera s'il met telle ou telle proposition au référendum. Les voilà donc prévenus. Au sujet du contenu maintenant, le président a notamment été interrogé sur la taxe carbone. Une erreur. L'écocide, oui, si c'est le droit international qui s'en empare, ou les délais pour prendre des mesures face à l'urgence climatique.
Il y a urgence à agir. L'une des difficultés sur ce sujet, c'est qu'il faut parfois concilier les contraires.
Les obstacles sociaux, mais aussi et surtout, il en a beaucoup parlé Mathieu, devinez, l'économie, exemple du plastique.
On a une industrie qui existe, c'est des gens qui vivent totalement dignement. On ne peut pas du jour au lendemain leur dire « ton travail n'existe plus parce qu'on interdit du jour au lendemain la bouteille au plastique ». Mais surtout, il faut qu'on ait le substitut qui soit écologiquement mieux disant.
Donc on attend 20 ans, hein, 2040 je le rappelle. L'une des citoyennes lui a demandé si le système économique actuel justement était compatible avec l'écologie. Attention, réponse de Normand.
Tel qu'il fonctionne, avec ses dérives des dernières décennies, non.
Mais
tel qu'on peut le bouger, je crois que oui. Au fond, on vit. Quel est le système dans lequel on vit?
Bon alors là j'ai coupé hein, parce qu'il part du quasi-philosophique avant d'aboutir.
Moi je ne confondrai pas le capitalisme d'accumulation et l'économie de marché. Il faut qu'on arrive à intégrer la composante climatique dans le fonctionnement de l'économie de marché. Moi je crois que ce modèle il est compatible avec l'écologie.
Le président a affirmé également qu'il ne voulait plus signer d'accords commerciaux avec les pays qui n'ont pas ratifié les accords de Paris, à commencer par les États-Unis. Quant aux entreprises qui polluent, il croit que les taxer leur tordra le bras, contrairement à une citoyenne qui a émis quelques doutes.
Vous avez tort de dire qu'une entreprise qui pollue, elle continuera à polluer si on la taxe. Ça, c'est pas vrai. Si vous les taxez sur l'activité qui pollue, d'abord, peut-être que vous allez rendre l'activité non rentable et qu'elle l'arrêtera, mais vous allez l'inciter à corriger la pollution.
Eh bien, j'irai bien voir ce qu'en pensent certains du côté du CAC 40 et sans aucun filtre, si possible.
Camille Passauvert, c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr. Patrick Allard, la création de la Convention citoyenne pour le climat, vous en tant que scientifique, ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire beaucoup d'intérêt. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je suis même allé à une séance, je me suis inscrit en tant que spectateur, auditeur, à une des séances en décembre.
Et là, quand vous entendez les conditions, du coup...
Alors, quand j'entends les conditions, j'ai, comme vous, écouté en intégrale les échanges entre le président de la République et les 150 personnes. J'étais enthousiasmé au début, puis à la fin, j'ai trouvé que ça devenait de plus en plus complexe.
Ah oui.
Effectivement, j'ai pas trouvé le discours du président d'une clarté totale sur... les engagements qu'il prendrait en fonction de ce qui a été dit.
Et demander aux citoyens donc des textes de loi déjà clairement rédigés, c'est un peu gonflé quand même, non ?
Je pense pas que ce soit gonflé. Je pense pas qu'il demande le texte juridiquement pointilleux, parfait.
Il dit que ça doit être parfait pour que ce soit directement appliqué ou applicable en cas de référendum. Alors ils sont entourés de juristes quand même, les citoyens.
Mais... Voilà, c'est ça. Ils vont peut-être se faire aider. En tout cas, je trouve que l'exercice est intéressant. Après, ce qui va être très intéressant, c'est de voir ce qu'il en est fait, réellement, par le pouvoir politique.
Eh bien, on va tous suivre, nous, en tout cas, dans la Terre au carré. Et Camille est très attentive à tout cela. Patrick Allard, on se retrouve dans un instant, puisqu'on parle de ce volcan Taal aux Philippines, pardon. Et puis la France, l'Europe aussi, il y a des choses à dire sur la question. 01 45 24 7000 pour les questions des auditeurs. C'était David Walters.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le volcanologue Patrick Allard avec nous pour commenter donc l'éruption de ce volcan philippin Taal, donc à 65 km au sud seulement de Manille, à 20 km à 60 km donc. Et pour le diamètre de la caldeira, vous le disiez tout à l'heure, c'est 20 km à peu près.
Et ce diamètre, le diamètre du cratère, quant à lui?
Ah, le cratère, c'est le cratère du petit volcan central qui s'est reconstruit. C'est 3 kilomètres déjà. C'est déjà très grand.
Il y a beaucoup de questions des auditeurs sur les réseaux sociaux, sur l'application de France Inter, à la page de la Terre au Carré. Il y a Gérard qui demande justement au sujet des Philippines, quels sont les risques pour la santé des populations, sachant qu'il y a déjà des cendres qui sont tombées sur Manille, par exemple.
Alors les risques dans le cas de ces éruptions et de celle du Taal en particulier, c'est bien sûr les risques liés à l'inhalation des cendres volcaniques fines qui viennent polluer les maisons, qui rentrent partout, qui s'accumulent sur les toits. C'est un des risques aussi de décès, l'accumulation des poids de cendres sur les toits qui s'effondrent sur des maisons pas très solides par exemple. L'autre risque sanitaire, ce sont les gaz volcaniques qui sont acides, de l'HCl, de l'acide chlorhydrique, de l'acide fluorhydrique, du dioxyde de soufre, qui s'absorbent sur ces particules et qui sont, si elles sont fines, qui sont injectées un peu respirées profondément dans les poumons.
Mais les cendres sont toxiques en elles-mêmes ou pas?
Les cendres,
on parle aussi de cendres fertiles. Par exemple, la Sicile, on voit les cendres de l'Etna sont très propices à la culture, par exemple, aux cultures.
Absolument, les sols volcaniques sont fertiles et sont propices à la culture, mais une fois dégradés, une fois altérés par l'érosion et transformés, parce qu'ils contiennent du calcium, du phosphore, du magnésium, etc. Mais dans une région volcanique qui a subi une éruption volcanique, on ne fait plus de culture, tout est détruit. Oui. Donc c'est une question de temps.
Patrick Allaire, ça peut durer combien de temps cette situation avant une éventuelle explosion ou un éventuel apaisement?
C'est de la question clé pour les volcanologues philippins, puis pour nous, d'une manière plus générale, pour tout volcan. On peut avoir des phases de précurseurs qui sont relativement brèves, quelques jours, quelques semaines, avant un paroxysme, quelquefois 48 heures, ça peut être ça. Mais on a des scénarios avec des phases différentes. Ça dépend de la vitesse de remontée du magma et du volume de magma à disposition en dessous.
Jocelyne sur franceinter.fr demande s'il existe un scénario pour évacuer 20 millions de personnes qui correspondent donc au nombre de la population de Manille.
Non, il n'y a pas. On a un scénario. Je vous donne un exemple, un analogue de volcan comparable, la caldeira des Champs Flégréens, à côté de Naples, bien sûr, qui fait 12 kilomètres de diamètre. Là, c'est plus petit, mais c'est quand même 12 par 15. Là, c'est pas un lac, c'est la mer qui remplit en partie cette caldeira. Il y a 550 000 personnes qui vivent à l'intérieur de ce volcan. Et puis, il y a les centaines de milliers de personnes de Naples autour. En gros, si ce volcan, qui est très actif et qui soulève beaucoup d'inquiétudes en ce moment, enfin depuis plusieurs années, qui se soulève, qui avec des séismes, avec des déformations, avec des gaz de plus en plus puissants, des émissions de gaz plus puissantes, si ce volcan donnait des signaux précurseurs comparables à ceux du Taal, il faut évacuer 600 000 personnes. Mais ça c'est préparé.
Dans la région de Naples.
Région de Naples. Oui. Mais ça, c'est préparé, pardon. Et on sait déjà plus ou moins où chaque habitant de telle commune, de quel quartier va aller en Italie. On va les évacuer par bateau, par train, par voiture. Mais tout ça, c'est joli sur le papier. Quand il s'agit de passer à la pratique, c'est autre chose.
On a une question de Lucas sur l'application France Inter qui rappelle l'éruption du Pina Tubo. En 1991, toujours aux Philippines. Cette éruption avait fait baisser la température de la Terre pendant plusieurs mois. Ce nouveau volcan en éruption pourrait-il faire la même chose?
Alors si ce volcan du Taal fait une éruption en genre, une éruption de magnitude comparable, on parle de magnitude pour les éruptions, VEI 6 ou 7, c'est-à-dire des volcaniques explosivité index. On a, comme pour les séismes, des magnitudes, pour les éruptions volcaniques, en fonction du volume émis, de l'explosivité. Le Pina Tubo avait effectivement occasionné les cendres, mais surtout les aérosols volcaniques qui circulent tout autour de la Terre, qui font un filtre pour la radiation solaire, avaient entraîné une réduction de 0,4 degrés pendant un an, disons, à peu près.
Sur Terre.
Sur la Terre globale, au niveau du sol. Oui. Donc, on a des cas d'éruption volcanique. Le Tambora, en 1815, en Indonésie, c'était 0,7 degrés, presque 1 degré. Et le lac Toba, il y a 75 000 ans, gigantesque éruption. VEI 8, c'est-à-dire presque le maximum de l'échelle qu'on connaît, entre 3 et 5 degrés.
En moins, donc, sur la planète.
Et là, pendant des années. Donc, vous voyez... Un volcan à lui
faire baisser les températures, si les conditions sont réunies.
Super éruption, VEI 8, le maximum des éruptions volcaniques, peut faire baisser la température de la Terre de plusieurs degrés. C'est-à-dire, on crée l'hiver volcanique. Et bon, là, on est dans des cas de force majeure qui arrivent très rarement. Mais des éruptions volcaniques comme le Pinatubo, c'est une tous les 100 ans. Si on en avait deux, trois qui se suivent à quelques décennies, on est capable de contrebalancer naturellement une partie du réchauffement climatique. Rappelons-nous qu'on parle de limiter le réchauffement climatique anthropique, disons essentiellement d'origine anthropique, à 1,5 degré.
Voire 2, oui.
Voire 2 degrés. Là, on est en train de parler déjà de 0,5 degrés.
Ouais. Donc c'est considérable.
Pour une éruption.
C'est considérable.
C'est considérable.
Ouais. Patrice nous dit, en termes de dangerosité volcanique, à l'image du supervolcan de Yellowstone aux États-Unis, le supervolcan du lac Lacher en Allemagne pourrait être, est-ce que ça pourrait être une catastrophe naturelle, une catastrophe majeure? Quelles en sont les dernières données objectives et perspectives actuelles? Donc il y a un volcan actif en Allemagne.
Il y a un volcan actif en Allemagne, ouais. Le Lacher aussi. Il y en a même deux, mais il y a celui-là qui est à la frontière avec la France. Hein, le fossé du Rhin, c'est une grande faille. Et c'est un volcan qui dégaze beaucoup de gaz profond, qui a du magma en profondeur, qui a une recharge, qui refera éruption. C'est pas du tout un volcan éteint.
Ouais.
Donc les Allemands et les Français ont intérêt à surveiller ce volcan, ce qui est fait, ce qui est absolument fait. Les volcans, c'est quelque chose, c'est comme le réchauffement climatique, ça n'a pas de frontières. Hein, les cendres volcaniques du volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010 sont partis partout.
Sybille nous demande sur l'application France Inter, ne faudrait-il pas arrêter de s'installer ou de cultiver près des volcans actifs comme le Taal ou le Vésuve en Italie?
Ben c'est tout le problème. Nous, les gens qui vivons en dehors des zones volcaniques, on se dit mais pourquoi les gens restent finalement?
Oui. Ça c'est fascinant dans l'histoire humaine.
C'est fascinant. Mais alors il y a de très bonnes raisons. Les sols sont fertiles. Une fois qu'ils sont dégradés, comme on a dit. Les volcans sont des reliefs, sont des sources de ressources en eau, bien sûr, etc. De climat favorable, hein, on va dire ça aussi. De matériaux pour la construction. Hein, les laves, ça produit des beaux matériaux de construction. Mais c'est comme partout. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. On pourrait retourner la question et dire pourquoi certaines personnes chez nous vivent dans telle zone à proximité de, je sais pas quoi, des autoroutes. Ou de centrales nucléaires.
Et quand un volcan comme celui des Philippines en ce moment entre en éruption, est-ce qu'il y a une mobilisation internationale de la part de la communauté scientifique pour essayer justement de préparer ce qui peut se passer?
Alors ça c'est une bonne question. En tant que président, moi je suis président de l'association des volcanologues pour 4 ans là, on réfléchit beaucoup à ça, à créer une espèce de force d'intervention internationale qui aiderait des pays qui en ont besoin, des pays en développement, on va dire, en cas de coup dur pour des éruptions majeures. Pour le moment, nos collègues philippins maîtrisent la situation, on peut dire ça. C'est au gouvernement, bien sûr, qui sont de réclamer éventuellement, si besoin, et une assistance internationale.
Quel est sur Terre, aujourd'hui, le volcan que vous guettez avec le plus d'attention, voire d'inquiétude? Quelle serait la zone qui pourrait être la plus inquiétante?
Le volcan qui a le plus gros potentiel de catastrophe à l'échelle globale, c'est Yellowstone, dont on parlait, dont vous parliez il y a quelques temps.
Donc aux États-Unis.
Aux États-Unis, qui a produit c'est un super volcan qui a produit des super éruptions au cours du temps passé. Et effectivement, les conséquences de ces super éruptions sont globales et dépassent l'entendement. En termes d'impact et d'énergie, c'est équivalent à une chute météoritique, de grosses météorites.
Ouais. Avec disparition massive d'espèces.
Changement des écosystèmes, de la biodiversité, etc. On pense qu'en 75 000 ans, la super éruption du lac Toba en Indonésie, à Sumatra, a failli faire disparaître une bonne partie des communautés humaines qui existaient à l'époque.
Bon, c'était juste. On n'en est pas encore là, aux Philippines, mais on surveille évidemment ce volcan Taal de très très près.
Une question très rapide de Frédéric. Est-ce que générer des éruptions comme ça pour essayer d'enrayer la hausse des températures, c'est faisable? Est-ce que ça existe?
On ne sait pas. On a des difficultés à prévoir les éruptions, on ne sait pas les provoquer.
Merci beaucoup, Patrick Allard. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine, un nouveau feuilleton avec Juliette Proutot qui s'est intéressée au devenir des tonnes de terre qui sont extraites en ce moment pour construire le futur métro du Grand Paris. Vous écoutez France Inter, il est 14h.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de notre demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Théo, c'est un auditeur de Brest qui a créé la première filière française de recyclage des filets de pêche. C'est plutôt une bonne idée, on va en discuter avec lui. Et puis enfin, notre invité découverte, ça sera le journaliste Jérôme Fritel, qui est l'auteur d'un documentaire édifiant, vous le verrez, consacré à la privatisation de l'eau et qui est à voir en ce moment sur le site d'Arte. Mais pour le moment, c'est le premier reportage de la série que vous signez, Juliette Proutot, et qui s'intéresse donc au devenir de millions de tonnes de terre.
Et oui, parce que s'il y a quelque chose d'extraordinaire à propos des futures lignes de métro, c'est bien la quantité de déchets qu'elles vont produire. Plus de 45 millions de tonnes de terre doivent être extraites du sol. Et pour donner une idée, ça équivaut à peu près à un peu plus de 9000 piscines olympiques.
Oui, quand même. Ouais.
Mais toute cette terre, ensuite, elle va où ? Parce qu'aujourd'hui, et heureusement, sa gestion d'un point de vue écologique est bien plus encadrée qu'à la fin du 19e siècle, à l'époque de la construction du premier métro. La preuve en est d'ailleurs que la Société du Grand Paris a promis d'en revaloriser près de 70%. Mais alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, pour le savoir, direction Aulnay-sous-Bois, et avec les responsables des différentes étapes du chantier, on descend dans le tunnel de la future ligne 16.
On fait entre 10 et 20 mètres de creusement par jour. Donc si on fait le calcul, ça fait entre 3000 et 6000 tonnes par jour de déblais évacués.
Juste ici pour la ligne 16.
Par un tunnel.
Vous comme nous, on est en train de vivre quelque chose d'historique, tout simplement. C'est juste extraordinaire. On est en train de vivre un chantier qui, ceux qui ont connu ça, il y a 100 ans.
Ah, là, on commence à monter un escalier pour redescendre, en fait. Ah oui.
On a là un train qu'on appelle un train sur pneus, qui permet d'alimenter le tunnelier en matériaux, en tuyaux, en câbles électriques, de manière à ce que le tunnelier ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est le cordon ombilical d'approvisionnement des matériaux, les petits trains. Et là, c'est le cordon ombilical d'évacuation des déblais. Donc un chantier de tunnelier, c'est un chantier de logistique, avant tout pour que le tunnelier ne s'arrête jamais. Parce qu'à l'origine, c'était des petits trains qui alimentaient, comme dans la mine, le tunnelier. Voilà, donc là on arrive au tunnel circulaire réalisé par le tunnelier.
Est-ce que c'est vrai que les tunneliers ont un prénom ?
C'est vrai, les tunneliers ont tous un prénom féminin. Celui-ci se prénomme Armelle.
Pourquoi ?
Parce que c'est le prénom d'une jeune femme qui est gendarme sur la ville d'Aulnay. Et son nom a été choisi parce que cette jeune femme a réalisé un acte de bravoure il y a quelques années en sauvant une famille d'un incendie. Et donc, à ce titre, elle a été choisie pour être la marraine de ce tunnelier.
C'est tout sombre au bout, mais il est loin, Armelle.
Il est à 110 mètres. La tête du tunnelier est à 110 mètres. Donc c'est tout le tunnelier se déploie et on voit la structure blanche. Au fond, c'est l'arrière du tunnelier. C'est la dernière remorque du tunnelier qu'on distingue. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est aussi très intéressant, très importante pour les mineurs que nous sommes. C'est la Sainte-Barbe.
Sainte-Barbe ? Oh !
C'est mignon, hein?
Un petit peu ce qu'on voit.
Voilà, donc là nous voyons une statuette de la Sainte-Barbe, qui est la patronne des mineurs et plus généralement de tous les corps de métier qui travaillent avec le feu, puisqu'à l'origine, les mineurs travaillaient avec de l'explosif.
On va au petit laboratoire dans lequel la terre est testée. C'est par là.
Donc là, on a la partie où
on commence tout à gauche.
Voilà.
La terre, elle
arrive, elle est séchée. Les échantillons sont pesés. Donc après, on va préparer nos échantillons et on va les mesurer directement à l'aide de cet appareil qui ressemble à un gros pistolet à rayons X. Et ce pistolet à rayons X, il est connecté à un ordinateur et il nous donne immédiatement la teneur donc dans les éléments que l'on recherche dans les sols.
D'accord.
Première analyse.
C'est pour les métaux.
Les métaux. Et on a après donc nos deux mesures qui nous mesurent les sulfates et les fluorures que l'on a dans nos sols.
Donc ça se met à clignoter rouge quand il y a un truc qui ne va pas ?
Oui, il y a évidemment, on a les concentrations qui s'affichent. Donc là, à partir de là, on avertit nos collègues du chantier s'il y a un dépassement de seuil, oui.
Bon, et ben donc c'est bon, c'est trié.
Ça sent le barbecue.
Ça sent le barbecue, là, oui. Il y avait des flammes.
Ils arrivent une belle braise.
Mais c'est vraiment un barbecue ?
Oui.
Ah mais je croyais que c'était un truc un peu technique.
Ah, non. Non, c'est le barbecue. Tous les midis, les gars, ils se font une petite grillade. C'est pour ça qu'on aime le chantier.
Et oui, et nous aussi, on va continuer à aimer le chantier. Et maintenant, on pourra même penser grillade et barbecue.
Absolument.
Quand on sera dans le métro.
Et demain, on va où alors, Juliette ?
Et demain, on va s'intéresser aux terres polluées. Je vous emmènerai dans le premier centre fermé de dépollution aux hydrocarbures.
Merci beaucoup. À demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et direction Brest pour retrouver Théo qui nous attend pour nous parler, entre autres, filet de pêche. Bonjour Théo.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designer avec vos acolytes Thibaut et Yann et vous avez créé Fil et Fab. C'est la première filière française de recyclage des filets de pêche qui est basée à Brest. Et on aimerait bien que vous nous racontiez comment a démarré votre histoire, Théo.
Ah bah effectivement, l'histoire, ça a démarré à Brest, sur les quais de Brest, précisément. Donc on se promenait, c'est là qu'on a vu des filets de pêche usagés. Et on s'est posé la question, pourquoi ils étaient encore là sur les quais, est-ce que c'était recyclé, recyclable. Et le lendemain, on a fait un peu de recherche et on a découvert une problématique qui était assez peu connue à l'époque. C'est les filets de pêche où il y a 800 tonnes de filets qui sont envoyés à l'étranger, ou enfouis ou incinérés. Et donc on s'est dit, à notre échelle, on va essayer de trouver des petites solutions en tant que designer de recréer des choses à partir de cette matière. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, chez les Fab, le fait qu'on a été confronté à cette problématique des filets de pêche usagés.
Alors Théo, ça veut dire que quand on se balade sur les ports français et qu'on voit des filets de pêche, il y en a énormément qui sont abandonnés ?
Voilà, ils sont abandonnés, ils sont mis dans des bennes ou des choses comme ça. Hein. Chaque port a sa propre gestion. Quand on peut se promener effectivement sur les ports, on peut en voir. Mais le problème en France, c'est qu'il n'y avait aucune solution de recyclage. Tout était envoyé à l'étranger. Donc à l'époque, c'était en 2015 qu'on a commencé ce projet-là. On s'est dit, on va en récupérer un peu pour refaire des choses. Et petit à petit, travailler sur cette matière et redonner une seconde vie en France à ces filets.
Alors justement, ils vous inspirent pour faire quoi les filets de pêche, Théo ?
Alors aujourd'hui, le projet a évolué. Maintenant, en société, on travaille sur ce qu'on appelle de la régénération. Donc en gros, on collecte des filets de pêche et on les recycle en matière première. Donc ça s'appelle des granulés, c'est des sortes de petites billes de plastique qui peuvent être réutilisées par les industriels ou les entreprises en France ou ailleurs.
Alors, vous avez vraiment assez de matière pour travailler et créer des choses particulières ?
Oui, voilà, tout à fait. En fait, le projet est passé de démarche expérimentale à vraiment un processus industriel, un peu comme les recyclages de bouteilles hein, qui sont retransformés en petites billes. Donc, c'est un peu la même chose. On collecte de la matière, alors soit avec les collecteurs qui sont déjà agréés par rapport au port, ou on met en place des nouvelles gestions de collecte de filets de pêche avec les ports partenaires. Et petit à petit, on va comme ça grandir au niveau de la collecte nationale des filets de pêche usagés.
Quel type d'objet, alors, est-ce que vous êtes capable de fabriquer via cette matière première, là, Théo ?
Alors nous, en fait, on vend la matière première. Donc on ne refabrique pas d'objets, c'est nos clients. Aujourd'hui, on travaille dans le secteur de la lunetterie, de l'horlogerie. Les premiers produits vont sortir au printemps, surtout au niveau des lunettes. Donc c'est vraiment des objets qui sont habituellement faits en plastique vierge. Et donc nos clients, en fait, ont fait le choix de passer aux matières recyclées. Et surtout que l'histoire des filets de pêche par rapport au port et au monde de la pêche les intéresse beaucoup. Et c'est comme ça que nous, on s'est positionné en tant que vendeur de matières premières pour les entreprises qui souhaitent réintégrer du plastique usagé, dans leurs produits.
Donc vous êtes devenu finalement plus commerciaux que designer, hein. Le côté artistique, vous l'avez mis un peu de côté, visiblement.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, on voulait faire des objets, type lampes, des choses comme ça, sauf qu'on s'est rendu compte, alors déjà au niveau de la recherche et développement, c'était assez coûteux, mais surtout qu'en fait, c'était pas deux, trois lampes qui allaient être créées par nous trois, qui allaient changer des choses, en fait, au niveau de la filière pêche.
Et donc, pour vraiment avoir de réels impacts, que Fidefab ait des réels impacts sur son territoire et au niveau national dans quelques années, c'était de prendre du volume. Et la seule manière de prendre du volume, c'était de devenir régénérateur de matières premières.
Et les pêcheurs, ils vous donnent les filets assez facilement? Vous avez même peut-être des accords, des partenariats?
Voilà, alors en fait on travaille avec les gestionnaires de parcelles en Bretagne, c'est la Bretagne qui est la région Bretagne qui est propriétaire de beaucoup de ports, et donc en fait on travaille surtout avec les gestionnaires qui eux sont en contact justement avec les pêcheurs. Parce que nous quand on va sur les ports, en fait les pêcheurs ils sont sortis. Donc on collecte en fait les filets avec un partenaire industriel qui est basé à Brest, qui est collecteur agréé en fait des déchets portuaires, et il nous amène la matière sur place à notre atelier, pour qu'on puisse après le recycler.
Et Théo, pour terminer, ce qui est important aussi, c'est que cette entreprise, c'est aussi une structure d'insertion sociale, hein, c'est ça?
Alors oui, on travaille en partenariat avec une structure d'insertion, les Jeunes d'Or, qui sont basés à côté de Brest, et ils nous ont accompagnés sur toute la partie en fait démontage des filets et préparation des filets. Donc en fait, la société Filetfab, elle a été créée au mois de juin, donc on était beaucoup en test industriel tout la fin 2019. Mmh. Et maintenant, on passe en production au niveau de la collecte et au niveau du recyclage. Donc le partenariat va évoluer dessus. Ouais.
Et on rappelle simplement aussi que les filets de pêche, on les voit sur les quais des ports, mais ils sont aussi en mer. Hein. C'est les éléments qu'on retrouve plus dans la pollution maritime avec les mégots, par exemple, et les bouteilles en plastique, évidemment.
Merci beaucoup, en tout cas, Théo, pour votre coup de fil. Vous êtes à Brest et cette société que vous avez créée s'appelle Filetfab, première filière française de recyclage des filets de pêche. Merci à vous.
Bonne journée.
Allez, dans un instant, on parle de ce documentaire qui s'appelle Main basse sur la privatisation de l'eau et qui est diffusé en ce moment sur le site d'Arte. Et c'était Brittany Howard avec Georgia.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Autrefois, l'Australie était le pays de l'entraide. Maintenant, c'est chacun pour soi, surtout pour l'eau. L'eau est là, je peux la toucher, je peux y tremper les pieds, mais je ne peux pas l'utiliser à moins d'avoir l'argent.
Extrait de votre documentaire Main basse sur l'eau que vous signez, Jérôme Fritel. Bonjour.
Bonjour.
C'était Bart Doan, c'est son nom, éleveur laitier australien. C'est lui qu'on voit au tout début justement de ce film coécrit avec Patrice de Masery et qui est disponible sur Arte TV jusqu'au 14 juin prochain. Vous êtes journaliste et le sujet donc qui vous a intéressé, celui de la financiarisation de l'eau à l'échelle internationale. Et vous montrez que dans certains pays, l'eau, comme en Australie par exemple, aux États-Unis, est déjà devenue un objet de spéculation financière.
Il s'est opéré une véritable révolution sur l'eau, autour de l'eau, une révolution silencieuse parce que on n'avait rien entendu là-dessus. Et certains pays aujourd'hui ont été très loin dans ce sens-là. Ils ont décidé de transformer l'eau en une marchandise et d'organiser son commerce à l'aide de marchés, un peu comme on fait avec le pétrole. Et donc l'Australie a 10 ans d'avance un peu sur tout le monde là-dessus. Ils ont basculé dans ce système totalement privatisé en 2007 et c'est un système ultra-libéral, totalement dérégulé également. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Australie, il n'y a pas besoin d'être propriétaire terrien, donc il n'y a pas besoin d'être fermier, cultivateur, il n'y a pas besoin d'habiter dans une ville, il n'y a même pas besoin d'être australien. En tant que ressortissant étranger, aujourd'hui, vous ou moi, nous pouvons acheter de l'eau australienne et la revendre et la relouer aux fermiers, aux acteurs, aux consommateurs. Donc on voit qu'ils ont ouvert un espace de spéculation totalement nouveau. L'eau était une ressource qui échappait jusqu'à maintenant aux règles du commerce. Mmh. Et aujourd'hui, elle est ramenée à du pétrole, à du blé, à du maïs, à une simple matière première. Ouais. Or l'eau, c'est un peu différent. Ouais. L'eau, c'est une ressource unique.
C'est ça.
Et puis, si vous restez 3 jours sans eau, vous mourrez quand même.
Et ça résonne d'une façon tout à fait particulière en Australie, évidemment. Évidemment, avec une sécheresse quasiment historique, et on voit d'ailleurs dans votre film que bon nombre de fermiers sont obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus payer cette eau qui, avec la sécheresse, la hausse des températures, prend aussi de la valeur, donc coûte de plus en plus cher.
Effectivement, leur système a été fait pour essayer d'établir un nouveau mode de répartition de l'eau entre les différents consommateurs. Et en particulier les agriculteurs. Les agriculteurs utilisent 70% de l'eau potable disponible. Donc on a les agriculteurs, on a les industriels, il y a des mines très importantes en Australie, et puis aussi toutes les personnes qui habitent dans les villes, donc les agglomérations. Et ces gens aujourd'hui se retrouvent en compétition, en concurrence, pour capter la ressource. Et c'est le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui va régler, qui va arbitrer qui aura l'eau, qui pourra en consommer le plus. Alors en période de sécheresse, où l'eau, effectivement, est plus rare, les prix ont tendance à flamber. Depuis l'introduction de cette réforme en Australie, dans certaines zones, les plus arides, les plus touchées par la sécheresse, les prix ont été multipliés par 10. On est passé de 35 euros le million de litres, c'est l'unité sur les marchés, ouais. Le million de litres, à 350 euros le million de litres. Moi, quand je tournais, c'est-à-dire c'était exactement il y a un an, au mois de février 2019, l'eau valait 500 dollars australiens le million de litres, c'est-à-dire 350 euros. Et effectivement, les fermiers, les petites fermes, les fermes familiales, les éleveurs, ne peuvent plus aujourd'hui acheter de l'eau supplémentaire sur les marchés, parce qu'elle coûte trop cher, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Et c'est un drame vraiment quotidien, et qui était sans doute pas du tout prévu dans cette nouvelle équation de l'eau. Mais on sait que quand on passe par les marchés, il y a une règle, c'est la loi du plus fort et c'est la loi du plus riche.
Le point de départ, c'est la raréfaction évidemment de l'eau. Cette main basse, comme vous intitulez le documentaire, elle date de combien d'années? Ça date de quand, cette privatisation-là?
C'est un processus en Australie qui a commencé dans les années 90 et qui s'est accéléré dans les années 2000, justement parce qu'ils ont été confrontés à une gigantesque sécheresse qui s'appelle The Big Dry, la grande sécheresse qui a duré quasiment une décennie. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer sur le même modèle parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde. Ils ont un énorme secteur d'agriculture intensive, grande consommatrice d'eau, donc ils se sont dit il faut qu'on trouve un moyen pour répartir l'eau. Et les Australiens sont des anglo-saxons, croient beaucoup aux règles du marché, ils ont foi en les marchés, ils ont été très peu impactés par la crise financière de 2008, donc il n'y a pas de méfiance au sein des élus, au sein de la société civile, dans le fait de faire appel au marché. Et puis aussi, il y a des nouveaux acteurs qui sont les écologistes, et en Australie, les écologistes ne sont pas forcément d'infâmes gauchistes, il y a aussi beaucoup d'écolos libéraux. Mais
qui soutiennent.
Qui soutiennent, qui
croient
au marché.
Comme aux États-Unis, en Californie aussi. Hein. C'est ce qui surprend d'ailleurs dans votre film. Hein.
Exactement. On voit ces écolos libéraux qui sont très pragmatiques et qui disent, voilà, nous sommes à la tête de fondations qui sont riches. Nous pouvons utiliser notre argent pour acheter de grandes quantités d'eau sur les marchés pour que cette eau reste dans la nature et qu'elle ne soit pas utilisée par les agriculteurs. Donc ce sont des acteurs importants, que ce soit en Californie ou en Australie, ces puissantes fondations écologistes.
On va écouter William Buter, qui est conseiller économique spécial d'une entreprise, Citigroup, et qui justement parle avec pas mal de cynisme, on va l'entendre.
Il faut faire payer aux gens le véritable prix de l'eau pour qu'ils réalisent que chaque fois qu'ils en boivent une gorgée, il y a un coût. Il faut qu'ils le sentent au niveau du portefeuille. Comment les convaincre de réduire leur consommation si vous leur donnez gratuitement ? Nous allons voir les marchés vendre les premiers produits financiers sur l'eau. Même les traders à haute fréquence et les fonds spéculatifs seront intéressés. Tout le monde voit ça comme une opportunité. Reste à savoir qui tirera le premier et le plus fort.
Et quelle sera leur motivation ? Le profit.
Voilà, ça fait froid dans le dos, ça aussi. Hein.
C'est une leçon de cynisme.
Absolument.
Terrible.
Un jour, ils vont nous faire payer l'air qu'on respire, hein, si ça continue.
Ben écoutez, c'est ce que je pensais, mais en fait, on s'aperçoit qu'avec le marché des crédits carbone, le droit à polluer l'air, eh ben, on a déjà commencé à financiariser un peu l'air.
Jérôme Fritel, heureusement, dans votre film, il y a aussi des femmes et des hommes, mais des femmes surtout, d'ailleurs, on le voit, qui combattent cette privatisation de l'eau. On voit une Française qui a eu un rôle très très important dans l'eau parisienne, et puis une Canadienne, une militante qui s'appelle Maude Barlow. Alors elles y vont, elles aussi, hein, et elles font des choses formidables.
Oui, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas du tout d'accord pour en faveur de cette financiarisation de l'eau, de cette dérive,
c'est
mariage forcé.
C'est une confiscation quand même d'un bien.
C'est un mariage forcé entre la finance et l'eau. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. C'est un nouvel espace pour la finance et la finance, elle passe son temps à inventer de nouveaux secteurs. Donc ces gens sont là pour résister et ils partent du principe que l'eau, justement, n'est pas une ressource comme les autres. Il doit exister une exception, elle doit être sacralisée. Encore une fois, 3 jours sans eau, vous mourrez. Donc ces gens-là, et c'est pas uniquement des militants associatifs, il s'agit aussi de gouvernements et d'élus de grandes villes qui décident que l'eau doit rester un bien collectif géré par le public. Et je crois que l'ONU aussi s'est engagé, sous la pression de ces militants, s'est engagé dans cette direction en considérant, depuis 2010, en votant une résolution, en considérant que l'eau fait partie des droits humains universels. Mais c'est une défense pour l'instant, mais derrière, ça pousse, ça pousse, ça pousse.
Parce que là, on a parlé de Paris, par exemple, et du Canada, de l'Australie. Vous disiez que ça a été parti de l'Australie, mais ça s'est étendu. Donc c'est une situation qui existe, y compris en Europe, donc.
Les Australiens sont en train d'essayer d'exporter leur modèle partout dans le monde. Ils ont mis pied aux États-Unis, notamment en Californie, où les gens sont confrontés à la même sécheresse récurrente et disposent aussi d'un important secteur agricole. Donc on voit qu'on a exactement les mêmes caractéristiques qu'en Australie. Ils essayent aussi de s'implanter en Europe et la tête de pont, je dirais, naturelle, c'est le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni a commandé à l'économiste australien, qui est le père de cette réforme, un rapport pour voir comment on pourrait créer des marchés de l'eau en Grande-Bretagne. Ils ont laissé le rapport dans le tiroir, ils ont trouvé que c'était un peu radical.
Ouais, mais Paris, justement, c'est le contre-exemple. C'est le retour à une gestion publique de l'eau. Hein.
Paris a pris exactement une direction opposée. Donc ça remonte à 2009. On est au début du deuxième mandat du maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui a décidé de rapatrier l'eau dans le secteur public et de créer une régie publique de distribution de l'eau. Donc on voit qu'on est vraiment dans une démarche totalement opposée. Et alors, aussi bien Paris avant était la vitrine de la privatisation de la distribution de l'eau, aujourd'hui, elle est devenue la vitrine, justement, de la remunicipalisation de l'eau. Et derrière Paris, des villes comme Berlin se sont engagées dans la même direction, ont même racheté leur contrat au privé. Ça leur a coûté 800 millions d'euros pour faire revenir l'eau dans le giron public. Et d'autres villes, Munich, aujourd'hui, il y a d'autres batailles sur l'eau pour des villes comme Barcelone ou Madrid. Donc, on voit que, en Europe, on résiste, une espèce de forteresse naturelle. Et certains pays ont même été plus loin, un petit pays comme la Slovénie, qui dispose de réserves d'eau formidables. est très importante, se sentaient menacés par les grandes entreprises qui venaient s'installer pour pomper l'eau. Ils ont décidé de voter un amendement et de faire passer dans leur constitution le fait que l'eau reste un bien public et ne sera jamais privatisée.
Voilà, c'est un documentaire passionnant qui s'appelle Main basse sur l'eau et que vous pouvez voir librement justement sur le site d'Arte. Donc profitez-en, vous n'aurez rien à payer. Jérôme Fritel.
Jusqu'au 14 juin.
Voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Merci à vous.